E-Radio présente au cœur de l'Europe. Adrien Baudouin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Au cœur de l'Europe, une émission proposée par E-Radio, en partenariat avec le site d'information en ligne Le Courrier d'Europe Centrale. Au micro depuis Prague, votre fidèle serviteur, Adrien Baudouin, je suis doctorant en politique tchèque et polonaise à l'Université d'Europe Centrale et au Centre français de recherche en sciences sociales de Prague, et je suis aussi journaliste indépendant. Berlin, Minsk, Kiev, Prague, Varsovie, Budapest, j'habite la région depuis plus de 12 ans et j'espère vous communiquer ma passion pour ce cœur de l'Europe, entre Ouest et Est. Chaque mois, je m'arrête sur certains sujets d'actualité en Europe centrale et ce mois-ci, nous allons parler en détail des tensions en Moldavie, de la montée des extrêmes en Slovaquie et de droits des femmes en Tchéquie.
E-Radio, au cœur de l'Europe.
Moldova, Moldavie. La situation politique est tendue, alors le pays a pris la direction de l'Union européenne dans les dernières années sous la gouverne de la présidente Maia Sandu, mais la guerre en Ukraine et les forces pro-russes dans le pays menacent la stabilité. Le mois dernier, le gouvernement moldave a même lancé l'alerte sur sa vulnérabilité et sur les risques d'ingérence russe. Selon la présidente moldave Maia Sandu, des militaires en civil allaient entreprendre des actes de sabotage, des actions violentes, des attaques contre des institutions publiques et des prises d'otages. Des documents des services secrets ukrainiens ont aussi été transmis aux Moldaves pour les prévenir des plans de l'opposition pro-russe qui voudrait renverser le pouvoir avec l'aide du Kremlin. Il est dur de vérifier ce genre d'accusations, mais la réalité est que la Russie ne cache pas son hostilité envers le régime moldave et n'hésite pas à proférer des menaces. En février dernier, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, avait déclaré « La prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie ». En attendant, ce qu'on peut voir en Moldavie, ce sont surtout des manifestations constantes de l'opposition contre le gouvernement. Stop à la dictature, scande la foule. Alors ils ne sont en général que quelques milliers de gens plutôt âgés, des retraités, mais ils manifestent sans relâche depuis des mois. Ces manifestations sont hautement organisées, avec des bus nolisés qui amènent les gens vers la capitale depuis les régions et les villages, et plusieurs manifestants n'ont aucun problème à révéler aux journalistes sur place qu'ils sont payés pour venir manifester. Les médias gouvernementaux russes et leurs relais en Moldavie font passer ces manifestations pour des manifestations de masse du peuple tout entier uni contre le gouvernement. Les forces politiques qui agitent la population et relayent le message du Kremlin sont traditionnellement les partis socialistes et communistes, mais récemment, le parti conservateur Chor a pris le relais. Portant le nom de son chef, l'oligarque Ilan Chor, ce parti était traditionnellement celui de la minorité russophone et il a pris son envol quand l'oligarque en a pris la direction et changé le nom. Donc Ilan Chor, oligarque de 36 ans seulement, a fait fortune dans les affaires et puis surtout dans des affaires très louches. En 2017, il a été condamné à 7 ans et demi de prison pour avoir participé à une fraude d'$1 milliard dans le système bancaire moldave. Il a cependant réussi à s'enfuir en Israël en 2019, pays dont il possède aussi la nationalité. Et la loi israélienne interdit l'extradition de ses citoyens, sauf aux États-Unis. Même si son chef est en exil, le parti Chor continue de fouetter les ardeurs des citoyens, organisant manifestation sur manifestation.
E-Radio, au cœur de l'Europe.
Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun mécontentement réel envers le gouvernement, surtout que le contexte en Moldavie est très difficile. Il a vu les prix du gaz exploser depuis que la Russie a décidé de multiplier les tarifs par 6. Alors ce n'est pas la première fois que la Russie utilise l'arme du gaz contre la Moldavie ou contre d'autres pays. La Moldavie a aussi fait face à plusieurs embargos russes sur des produits d'export par le passé. Et l'inflation a aussi atteint 30% en 2022 dans le pays. Donc les problèmes sont réels, mais il ne fait aucun doute que des forces politiques liées à Moscou tentent de manipuler ces ennuis pour déstabiliser la situation. La meilleure preuve, c'est que récemment, ces forces ont même mobilisé la population contre une décision du gouvernement de déclarer que la langue roumaine, et non moldave, serait la langue officielle du pays. Donc pour la petite parenthèse historique, il faut dire que la Moldavie est un territoire habité par une population plutôt rouménophone depuis des siècles, mais qu'elle a été conquise par l'Empire russe au XIXe siècle. Dans l'entre-deux-guerres, la Moldavie a été réunie au reste de la Roumanie, et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Moldavie est devenue une république soviétique, et donc les autorités russes et soviétiques étaient celles qui parlaient de langue moldave, et au temps de l'Empire soviétique, la langue donc roumaine de Moldavie a été même traduite, on a utilisé le cyrillique pour cette langue latine. Donc après l'indépendance de 1991, le pays parlait de moldave ou de roumain, mais le gouvernement a décidé de régler la question pour de bon et de déclarer, voilà, notre langue officielle, c'est le roumain. C'est un peu comme dire que le belge et le suisse seraient des langues à part et non pas du français, ce qui serait assez absurde. Eh bien, figurez-vous que les forces prorusses ont quand même manifesté contre ce changement. Et c'était assez absurde, puisque sur place, des journalistes parlaient à ces manifestants qui souvent ne parlaient ni roumain ni moldave, comme on veut l'appeler, et ne parlaient que russe, et donc étaient quand même contre le changement de dénomination de cette langue qu'ils ne connaissent pas. Donc ça montre à quel point il y a des forces politiques qui veulent semer la zizanie à tout prix.
Euradio, au cœur de l'Europe.
Mais alors la vraie question est-ce que le risque est sérieux? Comme je l'ai dit, la Russie a proféré des menaces assez ouvertes envers la Moldavie, et les forces politiques moldaves liées au Kremlin sont très actives. Mais en plus de tout ça, il ne faut pas oublier le territoire de la Transnistrie. Alors cette longue bande de territoire qui longe le fleuve Dniestre, coincée entre l'Ukraine et le reste de la Moldavie, est sous contrôle russe depuis le début des années 90. Alors à l'époque, une bonne partie de la population locale, plutôt russophone, avait refusé de rejoindre la nouvelle Moldavie indépendante, et elle avait été aidée par des forces soviétiques et russes stationnées sur place. Et aujourd'hui, il y a encore 1500 soldats russes qui sont sur ce territoire. Au printemps dernier, il y avait des événements assez étranges qui s'y sont produits, avec des explosions, une attaque aux lance-roquettes. La Transnistrie, la Moldavie, l'Ukraine et la Russie s'étaient accusés mutuellement de provoquer des troubles. La réalité, c'est que la Transnistrie n'a pas des forces armées vraiment modernes capables d'attaquer, que ce soit du côté moldave ou du côté ukrainien. De plus, le territoire est inaccessible à Moscou, qui ne pourrait pas revenir à sa rescousse s'il y avait un conflit armé. Côté moldave, il faut dire que l'armée est aussi complètement vétuste. Bref, il semble qu'il n'est pas vraiment dans l'intérêt de quelconque des parties de lancer une attaque dans ce coin. Et si la Moldavie voulait vraiment mettre un terme à la présence russe sur place, elle pourrait bloquer le territoire avec l'aide de l'Ukraine, puisque alors les élites de Transnistrie, même plutôt des élites mafieuses qui dépendent de la contrebande et des échanges, elles seraient vite forcées à s'asseoir à la table des négociations si les frontières étaient vraiment bloquées.
Euradio, au cœur de l'Europe.
Bref, le danger ne vient pas vraiment de la Transnistrie et de ses troupes russes, mais est-ce que les forces politiques pro-russes en Moldavie pourraient vraiment déstabiliser le pays? Bon, alors il faut rappeler que le pays alterne depuis plusieurs années entre des forces orientées vers Bruxelles ou vers Moscou, mais en même temps c'est une vision un peu simpliste qui est souvent véhiculée par les médias internationaux. Cette simplification cache une réalité un peu plus compliquée. Donc au-delà des divisions géopolitiques, les partis représentent souvent des intérêts oligarchiques, ce qui veut dire que la rhétorique politique est souvent un outil pour arriver au pouvoir, et le pouvoir est souvent un outil pour favoriser les affaires. Donc c'est pourquoi les alliances se font et se défont, parfois même entre pro-russes et pro-européens, mais la situation du pays ne change pas beaucoup. Alors, en 2019, le parti Action et Solidarité de Maia Sandu avait même passé un accord avec les pro-russes pour se débarrasser de certaines forces oligarchiques qui étaient plutôt pro-Union européenne, mais les pro-russes ont ensuite passé un accord avec les forces oligarchiques pour se débarrasser de Maia Sandu. Bref, c'est un peu compliqué. Maia Sandu est par après revenue au pouvoir grâce à sa victoire au présidentiel de 2020. Mais les pro-russes ont quand même leurs intérêts. Ça veut dire que pour eux, l'alliance avec Moscou permet d'avoir accès à des avantages, comme la possibilité de contourner des embargos commerciaux, ou bien encore le soutien des médias gouvernementaux russes. Dans un pays où beaucoup de gens parlent encore russe et parfois ne parlent que russe, cela permet évidemment d'avoir de l'influence dans le pays. Ces canaux ont été interdits après le déclenchement de la nouvelle invasion russe de l'Ukraine. Donc ça veut dire que les partis pro-russes sont aussi parfois des entreprises qui visent d'abord et avant tout à avoir argent et pouvoir. C'est pourquoi les manifestations semblent parfois plus être des actions courtes pour faire quelques images pour les commanditaires de Moscou que de vraies actions avec un but politique immédiat. Donc pour le parti Chor, ces manifestations peuvent être aussi un instrument pour mettre de la pression sur le pouvoir, peut-être pour arracher un compromis sur le sort de son meneur en exil. Dans tout le cas, un bon score aux élections permettrait à cet oligarque de se débarrasser de sa condamnation et de défendre ses intérêts commerciaux.
Euradio, au cœur de l'Europe.
Donc sans vouloir diminuer la réalité de l'ingérence russe en Moldavie et du danger, les annonces du gouvernement visent aussi à recevoir plus de soutien de la communauté européenne. Donc en 2022, la communauté européenne avait donné à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne en même temps que l'Ukraine. Et puis depuis l'annonce de Maia Sandu sur un possible putsch russe, l'UE a quand même envoyé 40 millions d'euros au pays pour moderniser son armée, Ce n'est pas grand-chose, mais ça représente quand même un doublement du budget militaire du pays. Et puis la Moldavie aussi recevra en juin les 44 États du nouveau projet d'alliance politique, la communauté politique européenne qui a été justement pensée par Emmanuel Macron. Et bien évidemment, les déclarations du gouvernement visent aussi à discréditer l'opposition en l'étiquetant comme une marionnette du Kremlin. Donc, dans tous les cas, le gouvernement aura besoin de plus de soutien économique, mais aussi d'aide dans le domaine de l'énergie, car les promesses européennes sont bien belles, mais elles ne réussiront pas à charmer la population pendant bien longtemps s'il n'y a pas de résultats réels. Et en attendant, Moscou aura beau jeu de continuer à envenimer la situation. Évidemment, nous allons continuer à suivre toutes ces histoires.
Euradio, au cœur de l'Europe.
Slovensko, Slovaquie. Alors, depuis le vote de défiance envers le gouvernement en décembre dernier, dont je vous avais parlé, le Parlement slovaque a débattu de la possibilité d'élections législatives anticipées, puisque la Constitution slovaque ne prévoyait pas cette option. Ça a pris du temps, mais ils se sont finalement entendus pour le 30 septembre, pour les prochaines élections législatives. Donc ça va plonger le pays dans une longue campagne électorale après avoir une longue crise politique. Et les élections n'augurent rien de bon, puisque la gauche conservatrice et l'extrême droite pourraient bien s'allier. Donc pour comprendre la situation dans le pays, il faut faire quelques pas en arrière. Donc comme je rappelle, la scène politique slovaque a été largement dominée par les sociaux-démocrates conservateurs de Robert Fico. Donc ils ont été au pouvoir entre 2006 et 2010, et puis de 2012 à 2020. Donc lors de ce second passage au pouvoir, surtout, ils avaient été de plus en plus populistes et démagogues. Ils avaient utilisé l'homophobie, puis la xénophobie contre les réfugiés. Après, pendant ce règne, l'infiltration de l'État par le crime organisé a été extrêmement profonde. Et tout ça a explosé en février 2018, quand le pays a été secoué par le meurtre du journaliste d'enquête Jan Kuciak et de sa fiancée, qui ont été abattus froidement par un tueur à gages. Et justement, Jan Kuciak enquêtait sur les relations entre la mafia et le gouvernement, et cela lui a coûté la vie. Donc après le meurtre du journaliste Kuciak, la société civile slovaque s'était mobilisée et avait mis de la pression sur le gouvernement. Finalement, Robert Fico et son ministre de l'Intérieur avaient été poussés à la démission. Ça avait finalement permis à l'opposition de droite de triompher lors des élections de 2020. À l'époque, c'était le populiste Igor Matovič et son parti conservateur Olano qui avaient gagné les faveurs des citoyens. Il avait fait des coups de pub assez spectaculaires pendant la campagne, ce qui lui avait donné 25% des voix. Alors, il s'était allié avec trois autres partis du centre et de la droite, et Matovič était devenu Premier ministre. Mais son style radical et provocateur, qui marche bien en campagne électorale, a été assez peu efficace au gouvernement. Donc, dans une coalition à quatre, évidemment, son comportement colérique et narcissique avait fait bien des dégâts et créé des fissures dans la coalition. Un exemple, c'est que pendant la pandémie, il avait négocié avec Moscou l'envoi de vaccins russes dans le dos de ses partenaires. Alors cette affaire avait évidemment créé une crise gouvernementale qui l'avait poussé à la démission, mais il avait continué à semer la zizanie comme ministre des Finances. Au point où, justement, pendant l'été, un des partis de la coalition a posé un ultimatum. C'est Matovič ou nous. Et finalement, ce Matovič s'est accroché et la crise politique a duré pendant tout l'été, jusqu'au départ de ce parti. Et donc, la fin du gouvernement était proche, mais l'agonie a duré jusqu'en décembre, quand le Parlement s'est finalement décidé à faire tomber le cabinet. Alors pendant ce temps-là, alors que le gouvernement s'entre-déchirait au lieu de gouverner, l'opposition n'était pas en reste et tirait à boulets rouges sur la coalition.
Robme všetko preto, aby to neboli iní, ktorí nám budú určovať, kto má byť prezidentom Slovenskej republiky, kto má sedieť vo vláde. To sú suverénne slovenské záležitosti. A nie v Bruseli, vo Washingtone alebo v Moskve, ale tu na Slovensku si rozhodneme, kto bude náš prezident, aká bude vláda a ako sa táto vláda bude starať o Slovensku republiku.
Vous venez d'entendre la voix de Robert Fico qui prépare son grand retour. Faisons tout pour que ce ne soit pas les autres qui nous dictent qui doit être le président de la Slovaquie, qui doit être au gouvernement. Ce sont des affaires internes de la Slovaquie souveraine et non pas de Bruxelles, Washington ou Moscou. C'est en Slovaquie qu'on décide. Ça, c'était le discours de l'ex-premier ministre lors d'un meeting électoral récemment. Donc depuis des mois, Fico joue la carte nationaliste et son parti déguise une espèce de position pro-russe en une position de souveraineté, d'isolement et de pacifisme. Donc il critique le gouvernement actuel pour son soutien à l'Ukraine et prétend que le pays devrait plutôt se tenir à l'écart du conflit. Cela rappelle bien entendu la position de Viktor Orban ou encore les promesses électorales de l'ex-premier ministre tchèque Andrej Babiš. Alors après sa chute en 2020, le parti social-démocrate de Robert Fico s'était scindé en deux, avec une aile plus modérée dirigée par Peter Pellegrini, qui a formé le parti Hlas, la voix. Alors pour Robert Fico, cette division l'a poussé à se radicaliser encore plus, allant jusqu'à se rapprocher de l'extrême droite, avec laquelle il manifeste contre l'OTAN ou contre l'aide à l'Ukraine. En tête dans les sondages, le parti Hlas de Pellegrini est talonné par Fico et son parti Smer. Du côté de l'extrême droite, il y a aussi une scission du parti néo-nazi LSNS, qui a donné naissance au parti Republica. Donc ce parti tente de se départir de son passé de skinhead et de nostalgie pour le régime fasciste slovaque de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça réussit plutôt bien, et le parti est maintenant quatrième dans les sondages. Alors la grande question est-ce que les deux forces social-démocrates vont oser s'associer à l'extrême droite pour former une majorité parlementaire? Alors étant donné les appels de pied de Fico vers le nouveau parti d'extrême droite républicain, il semble que lui au moins soit prêt. Mais qu'en est-il de Pellegrini qui est plus modéré? Donc ça, ce sera la grande question de ces élections, surtout que les partis de la coalition actuelle se sont complètement effondrés dans les sondages. La longue crise politique avec toutes ces querelles dignes d'une cour de récréation a lassé les électeurs. Bref, de nombreux partis de droite et de centre-droit végètent aujourd'hui autour du seuil électoral et il reste à voir si de nouvelles coalitions ou bien de nouveaux partis verront le jour. Il reste quand même 6 mois avant les élections, donc les partis ont amplement le temps d'aller chercher les électeurs et proposer leurs idées. Et donc on va continuer à suivre la situation dans les prochains mois.
Euradio, au cœur de l'Europe.
Alors, Česko, Tchéquie, direction vers les voisins tchèques, où l'on parle de plus en plus du congé parental qui est le plus long d'Europe.
Se zkrácením doby vyplácení toho příspěvku je samozřejmě garance toho, že to dítě se dostane do mateřské školy nebo do nějaké alternativy, nebo že nějakým způsobem ten stát bude pomáhat tomu, aby to dítě bylo teda kam posílat do toho předškolního vzdělávání. To je samozřejmě důležité říct.
Alors, vous avez entendu la voix de l'économiste Lucie Zapletalova à la radio tchèque qui plaide en faveur d'un raccourcissement de ce congé qui peut durer jusqu'à 4 ans par enfant et d'un élargissement du réseau de garderies pour permettre aux parents d'avoir des options. Donc, il faut souligner que c'est loin d'être un congé, évidemment, ce congé parental, puisque s'occuper d'un nouveau-né est très difficile. Mais donc, en plus de parler des avantages de la prime maternelle pour le développement des jeunes enfants, Zapletalova et beaucoup d'autres économistes dénoncent les impacts négatifs du long congé parental sur la situation socio-économique des femmes tchèques. Des femmes? Eh bien oui, parce que 98% des parents en congé de parentalité sont des femmes en Tchéquie. Donc, étant donné l'écart salarial qui existe dès le début de la carrière, étant donné les stéréotypes sociaux, ce sont surtout les femmes qui restent à la maison avec les enfants. Et les pères ne sont pas vraiment encouragés à jouer un rôle actif, puisque le pays n'a introduit un congé de paternité qu'en 2018, et celui-ci ne dure qu'une semaine. Donc, puisque le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes vient juste de passer, nous allons nous pencher sur les problèmes des femmes en Tchéquie pour concilier famille et carrière. Alors, en Tchéquie, les mères ont un congé de maternité de 28 semaines après la naissance, si elles ont cotisé au système social, et ensuite un des deux parents, donc comme je l'ai dit en général la mère, a droit à une allocation parentale jusqu'à 4 ans de l'enfant, si elle reste à la maison pour s'en occuper à temps plein. Donc durant ce congé parental, la mère reçoit un total d'environ 12 000 euros pour une période, elle peut choisir donc pendant combien de temps elle va recevoir ça, soit pendant 2 ans, donc ça fait environ 500 euros par mois, ou pendant 4 ans, ce qui fait environ 250 euros par mois. Mais dans tous les cas, c'est bien en deçà du salaire minimum actuel qui est autour de 700 euros. Alors si l'État donne le choix aux parents, la réalité c'est qu'il y a peu d'alternatives à un long congé parental, tant le système est inadapté aux jeunes parents. Il y a peu de places dans les crèches et les garderies, et donc les mères n'ont tout simplement pas le choix que de rester à la maison si elles n'ont pas l'argent pour des nounous, pour des gardiennes, ou s'il n'y a pas les grands-parents qui sont disponibles. Donc par exemple, dernièrement, la télévision Nova rapportait que 44 000 demandes pour crèches et garderies avaient été refusées l'année dernière en Tchéquie par manque de place. Alors, pourquoi y a-t-il si peu de place dans les garderies et les crèches? Alors, il faut dire qu'il y a eu pendant des décennies un rejet sociétal des crèches en Tchéquie, donc ça la date de la fin de l'époque communiste, où les crèches avaient vraiment une mauvaise réputation. Il faut dire que les enfants étaient souvent parqués dans des grands groupes avec du personnel peu nombreux et peu qualifié, et les enfants n'étaient pas toujours bien traités. Donc, a formé un quasi-consensus professionnel anti-crèche parmi les psychologues et les pédagogues depuis les années 80. Donc le problème, c'est que ces gens se basent souvent sur des études seulement tchécoslovaques, et seulement des années 60 ou 70, où effectivement, les institutions étaient assez inappropriées. Et on sait depuis que, évidemment, les études internationales montrent que les crèches n'ont pas un impact négatif sur les jeunes enfants si elles sont bien gérées. Mais donc, même si la mère réussit à aller au-delà de ses stéréotypes et à trouver une place dans une crèche ou une garderie, elle n'est pas au bout de ses peines puisque les employeurs tchèques sont souvent plus flexibles. Donc les temps partiels en Tchéquie ne sont pas largement acceptés et les crèches ont souvent des heures d'ouverture qui ne conviennent pas aux mères qui travaillent. Donc, dans le système tchèque, les mères sont donc poussées à l'écart du marché du travail pendant des années et doivent se tourner vers des emplois à temps partiel si elles peuvent en trouver ou bien trouver des emplois en dehors de leur domaine de qualification. Évidemment, ça a des conséquences sur leur niveau de rémunération. Donc, même si les femmes tchèques d'âge actif aujourd'hui sont plus diplômées que les hommes, l'écart salarial entre hommes et femmes reste l'un des pires de l'Union européenne, plus de 16%. Ce fossé salarial est particulièrement élevé entre 35 et 44 ans, précisément au moment où les femmes ont de jeunes enfants et reviennent vers le marché du travail. Donc, dans les témoignages que j'ai recueillis pour un article dans le Courrier d'Europe centrale, plusieurs jeunes mères parlaient de leurs difficultés. Et ce que j'ai pu voir, c'est celles qui réussissaient le mieux à réintégrer le marché du travail, souvent parlaient d'un temps partiel, de travail dans les associations communautaires, le service public, ou l'auto ou le micro-entrepreneuriat. Bref, loin des postes rémunérateurs et des positions de pouvoir. Cela a bien sûr de profondes conséquences pour les femmes, en termes de dépendance envers leurs partenaires et risque de pauvreté. Parce que sans contribution financière du père, le congé parental n'apporte pas de revenus suffisants pour survivre. Et on le voit bien puisque les mères monoparentales, qui sont 90% des parents monoparentaux, parmi elles, il y a un tiers d'entre elles qui vivent autour du seuil de pauvreté. Évidemment, ça a aussi un impact plus tard sur le niveau de la pension, puisque comme les femmes passent souvent entre 3 et 10 ans à l'écart du marché du travail, elles ont une pension beaucoup plus faible que celle des hommes. Il y a donc plus de femmes retraitées vivant dans la pauvreté que d'hommes retraités. Et finalement, comme le soulignent les économistes, le système fait perdre au pays une importante richesse, puisqu'il prive le marché du travail de dizaines de milliers de travailleuses souvent très qualifiées pendant des années. Donc dans les prochains mois, le système sera sûrement débattu, mais il faudra des solutions complexes pour permettre aux femmes tchèques et aux parents tchèques en général de mieux concilier la famille et le travail. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Adrien Baudouin au micro depuis Prague, et avec l'aide de l'équipe de radio, Dovidenia, Nasledanao, Dovidenia, Visondla Atashra et Topobachenia. Au revoir, jusqu'au mois prochain pour le prochain épisode, Au cœur de l'Europe.
Euradio vous a présenté Au cœur de l'Europe, une émission d'Adrien Baudouin, réalisée en partenariat avec le Courrier de l'Europe centrale. Au cœur de l'Europe, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sites web d'Euradio.